Ce dernier décalage horaire de l'année a été enregistré juste avant d'apprendre la disparition brutale de Samuel Kitchin, alias Paladje. Nous avions eu la chance de recevoir l'auteur, compositeur et interprète qui vivait depuis près de 18 ans à Strasbourg lors du décalage horaire du 15 octobre. L'émission qui suit est dédiée à la mémoire de cet artiste original et généreux.
Décalage horaire avec Sylvain Derne. Une émission de NC Première en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, de nous accompagner pour ce 43e décalage horaire de l'année qui sera aussi le dernier. Dehors c'est l'hiver, il fait bien froid, ça caille, mais là on est dans le studio à Malakoff, dans les studios d'Outre-mer Première, et il fait bon là je pense. J'ai avec mes invités, ça sera une émission super musicale, artistique plus généralement, puisque je suis avec quelques représentants du Pacifique qui ont choisi de partager leur culture de multiples façons avec les publics français et européens. Ouais, c'était une phrase que j'avais écrite en effet. Honneur à Laurencia Naucha.
Bonjour.
Merci d'être monté de Bordeaux pour participer à l'émission. Donc, comment est-ce que on peut te présenter à nos auditeurs?
Eh bien, donc, je suis originaire de l'Ifou par mon père et réunionnaise par ma mère. Et donc, comme citoyenne du monde, ça me va, comme humaine, et donc voilà, comme artiste, et voilà.
Depuis combien de temps en métropole?
Depuis 14 ans, 14-15 ans.
Et tout de suite, tu t'es retrouvée à Bordeaux?
De suite, à Bordeaux.
Ouais. Pourquoi? Voilà. Pourquoi là-bas?
Je faisais des études de droit.
Bon, on va revenir sur ton parcours un tout petit peu plus tard. À ma gauche, Charles Baudry, c'est ça?
C'est ça.
Donc toi, tu es venu en métropole il y a 2 ans? En Europe.
En Europe. En Europe, 2 ans, oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été tes dernières pérégrinations?
En fait, j'ai terminé mes études en 2011, donc j'ai fini avec un BTS. Et à partir de là,
Au La Pérouse,
c'est ça. Et à partir de là, j'ai voulu voyager, découvrir un peu le monde. Et du coup, je suis parti en Europe, d'abord en Angleterre et par la suite à Paris.
Ok. Donc voilà. Bienvenue parmi nous.
Merci.
Pour la dernière, on s'est aussi dit qu'on aimerait donner la parole à nos voisins du Pacifique.
C'est super gentil, je reste. Maruru pour ton accueil.
Tu vois, vraiment, direct. Vraiment. J'ai donc le plaisir d'accueillir Théa Nuanua Parau Rahi. Exact. Et tu as choisi comme nom de scène TA 987,
voilà,
c'est ça?
TA 987, voilà, juste un petit clin d'œil. On se dit toujours pourquoi les Antilles, 971, 972. Bon voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Effectivement, à mon île natale, à mon Fénois, à la Polynésie, TA 987. Donc diminutif de Théa Nuanua qui signifie arc-en-ciel en polynésien.
Pour nous résumer un petit peu ton parcours, tu as choisi récemment de te consacrer entièrement à la musique.
Effectivement.
Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais?
Donc j'ai suivi un cursus plutôt normal, donc j'ai fait un bac pro MRBT, donc maintenance des réseaux bureautiques et télématiques. Ensuite j'ai fait un BTS informatique de gestion option administrateur de réseau et pour terminer avec un diplôme d'ingénieur en informatique. Donc voilà, j'ai fait chef de projet informatique. Mais voilà, la culture ça m'a toujours porté, ça m'a toujours bercé. Donc voilà, je suis devenu encore plus aujourd'hui artiste. Et
du coup, l'informatique, tout ça, t'as complètement mis de côté?
Non, j'ai pas mis de côté parce que tu sais qu'en France, je sais pas si c'est comme ça aussi sur le Caillou, mais en France, il faut faire de l'alimentaire, tu vois. Donc disons les choses très clairement. Donc effectivement, il faut travailler à côté, voilà, pour servir de payer ses factures et autres. Mais mon cœur a toujours été dans la musique, donc aujourd'hui encore plus que jamais, voilà.
Pour présenter notre quatrième et dernier invité, Monsieur Raphaël Kaikilikofé, représentant du SIAPO ici en France, je vous propose un petit extrait sonore.
L'océan.
Le collectif SIAPO.
Redites-nous le collectif.
SIAPO, solidarité itinérante d'artistes du Pacifique et d'Océanie, du Vanuatu.
Le Pacifique et l'Océanie devant nous ce soir à Nice, toujours en direct de la place Masséna, pour l'ouverture de ces Jeux de la Francophonie.
Voilà, donc ça c'est un petit retour en arrière, c'était en septembre 2013 lors de la cérémonie d'ouverture des 7e, je crois.
Jeux de la Francophonie.
Voilà.
Merci beaucoup Sylvain de nous avoir invités et puis merci pour cette très belle introduction.
Tous les représentants de la francophonie dans le monde étaient représentés, oui, et vous, voilà. On a fait appel à vous.
À savoir que dans le monde il y a 220 millions de locuteurs francophones et sur différents pays. sur tous les continents. Donc le Siapo a représenté ici l'Océanie, le continent Océanie.
D'ailleurs, Laurentia faisait partie des gens qui y participaient, c'est ça? Tu as pu chanter?
Oui, tout à fait. Très fort souvenir, très grande aventure humaine et aussi artistique. Voilà. Découverte d'un plateau quand même assez riche.
Il y avait Patricia Cass aussi, notamment. Voilà. Il y avait Isabelle Boulay, c'est ça?
Voilà. Oui.
Il y
avait du
Malody Bongo pour l'Afrique. Il y avait un collectif du Vietnam qui représentait le continent Asie. C'était une rencontre entre tous les pays francophones dans le monde.
Pour présenter plus généralement du coup, l'association Siapo, vous avez un pendant sur le Caillou, vous en avez un aussi en Europe, à Paris, dont tu es le
représentant. Moi, à la base, en fait, je suis artiste aussi, je fais de la peinture. Je suis issu du collectif artistique du Siapo de Nouméa, qui est né en 99 sur le Caillou, qui avait une équipe, en fait, c'était une équipe d'amis artistes. On était beaucoup plus spécialisés dans le domaine peinture, exposition. On s'est exporté un petit peu en France quand il y a eu les premiers salons des artistes d'outre-mer qui ont eu lieu dans les années 98 à 2000 à Paris. Et puis par la suite, moi j'ai décidé de décentraliser une antenne sur Paris. Et donc ça nous sert un petit peu de pont entre le Pacifique et la métropole. C'est ce qu'on appelle un petit peu entre guillemets l'universalité de l'art en général, qui fédère un petit peu tous les peuples du monde, toutes les civilisations, les histoires. Donc les gens se retrouvent un petit peu dans les différents domaines de la création.
Je vous propose de tout de suite rejoindre un de nos représentants aussi, qui est bien connu des Calédoniens qui sont à Paris et puis plus généralement en métropole, c'est-à-dire Jean-Silvio Carambeu, alias Sly. Je vous propose un petit portrait.
Oui, bonjour. Moi, c'est Jean-Silvio Carambeu. Je suis artiste, musicien, kanak. Et je vis en métropole depuis 14 ans déjà.
Au départ, tu n'étais pas forcément venu pour la musique?
Voilà, au départ, je suis venu pour mes études de langue et LEA. J'ai fait 2 années à l'université de Nantes. Et après ça, j'ai bifurqué dans la musique. Voilà. Je joue du piano, du clavier, on va dire. Je façonne aussi le piano parce que j'aime beaucoup aussi cette matière, le brut, etc. Que du numérique. Quoi.
Justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te sois consacré entièrement à la musique?
Parce que j'ai revu quelqu'un que j'ai écouté au pays, Paladier. Le chant du Cagou, c'est une musique qui m'a beaucoup bercé à l'époque quand j'étais petit.
Le Caillou, il te partage, il t'accueille. Tu as donné ta terre aux mères pour ses hommes et tous ses enfants. Kanaki, tu es mon recueil. Maintenant, un nouveau monde s'ouvre à toi. Des cœurs se mélangent, s'entrelacent pour un même but, de nouveaux horizons. Ooh, yeah, yeah, yeah. De cette terre coutumière, papa ta maman po, tu es le gardien de cette terre coutumière, yeah, yeah. Papa ta maman po, tu es le gardien de cette terre coutumière, papa ta maman po, tu es le gardien de cette terre coutumière, papa ta maman po, tu es le gardien de cette terre coutumière.
Comment tu définirais du coup ton inspiration, ta musique? Est-ce que ça s'apparente au kaneka finalement?
Oui, la base c'est surtout le kaneka, enfin, c'est les mélodies, c'est les chants, c'est l'inspiration, oui, le spirituel, etc. Tout émane de la Calédonie. Après, il y a aussi une découverte, des influences. Voilà, ça m'a influencé, ça m'a fait fusionner en fait des mélodies, des chants. Et le style aussi.
Ta pratique musicale, tu la développes ici en France et en particulier là au sud de Paris, on est à Ivry. Est-ce que tu penses que tu aurais le même rapport à la musique si tu étais au pays, en Calédonie?
Je ne pense pas. Ici, c'est vraiment le fief de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des concerts, ça joue. C'est très vivant ici à Paris. Au pays, je ne pense pas parce que je ne veux pas dire que c'est monotone, mais il n'y a pas assez de réflexion là-dessus. Je pense que ici à Paris, il y a de quoi faire. Quoi. Donc il faut être à la page, il faut être au niveau, il faut essayer de progresser dans la musique. C'est ça le but en fait. C'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je continue à travailler.
Comme tu nous le disais tout à l'heure, ça fait 14 ans déjà que tu es ici en métropole, un petit peu moins que tu es dans la musique. Est-ce que tu vois une évolution de la part des musiciens qui viennent de Calédonie, qui passent par la métropole ?
Oui, beaucoup. Quelques musiciens que j'ai vus jouer, ils ont tellement progressé d'ailleurs. Finalement, ils ont sorti des albums au pays, ils ont fait des choses extraordinaires. Il y a Brian Ikewe, par exemple, il y a Vevelan au niveau des musiciens aussi, comme Gustav Jeinec aussi, qui est un des mentors pour moi, parce que celui qui m'a beaucoup appris aussi au niveau de la musique. Glenn Wangen, un bassiste aussi, qui est formateur à Coney. Donc c'est ces personnes-là aussi qui m'ont beaucoup appris, mais qui ont évolué beaucoup au niveau au sein de la musique.
Toi, c'est une ville que tu aimes bien, Ivry ?
Ça fait 6 ans que je suis ici. Donc ça va, c'est très calme, c'est très familial, on va dire aussi.
Ça permet de rester aux portes de Paris en n'ayant pas forcément tous les désagréments de Paris intramuros.
Exactement, exactement. Un peu être décalé, un peu en décalage avec le monde qui stresse, le monde de parisien, on va dire.
Papa, ta maman, Paul, tu es le gardien de cette terre coutumière. Aïe, aïe, aïe.
Un petit message à faire passer au pays.
Oui, big up à tout le monde. Oui, je veux dire, c'est bientôt la nouvelle année, bientôt les fêtes. Je dis simplement bonne vibration pour le Kaneka et bon courage à tous ces musiciens, ces chanteurs qui veulent faire évoluer la musique et essayer d'avoir une place au sein de la musique du monde.
Voilà. Papa, ta maman, tu es le gardien de cette terre coutumière. Papa, ta maman, gardien de cette terre coutumière, papa ta maman pop, tu es le gardien de cette terre coutumière. Aïe 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 oh, aïe. Da maga, wanda maga na moi. Aïe aïe oui.
Retour ici à Malakoff.
C'est bien ce qu'il fait, Sly. Hein.
Ouais, t'aimes bien, t'es
là. Ah ouais, c'est un kiff.
T'as déjà eu l'occasion de le voir en concert ?
On a déjà fait des petits trucs ensemble, mais pas avec son clavier en fait, mais même en tant que DJ. Parce qu'il venait souvent dans des soirées qu'on organisait, notamment à l'Orchidée. La soirée spéciale Pacifique. Mais c'est bien, je ne savais pas aussi qu'il rappait tout ça.
Ouais.
Bah oui. C'est ça, il y a plein d'expressions.
Carrément.
Et du coup, tu parlais de ces soirées à l'Orchidée, etc. Ces regroupements, ces rassemblements aussi un peu à l'échelle de tout le Pacifique, où justement les Polynésiens, les Calédoniens, etc., les Wallisiens aussi se côtoient. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a ça en place ?
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, ça s'est arrêté puisque la patronne de l'établissement donc, a vendu. Mais c'était la première fois où on avait vraiment un endroit, donc c'était pas, à vrai dire, pas la première fois, mais en tous les cas dans ce type de soirée, dans ce type d'ambiance, c'est-à-dire vraiment avoir l'ensemble du Pacifique représenté avec voilà de la musique du moment, un peu plus de traditionnel. On voulait vraiment faire un truc comme au pays en fait et ramener un peu tout, enfin tout le monde. Bon, après on sait comment ça se termine les soirées, mais
je vais te censurer.
mais on a fait notamment le concert de Goulan. Voilà,
oui, Goulan,
voilà, le chanteur Goulan est venu à l'Orchidée et c'était carrément net parce que voilà, même les Tahitiens qui connaissaient pas, bon, même s'il y avait de la majorité de personnes de Nouvelle-Calédonie, mais
ça ils connaissaient pas un petit peu,
ouais, carrément. Et donc ça fait plaisir de pouvoir voir et de pouvoir voir donc ces artistes qui évoluent et surtout qu'on peut connaître ici. C'est marrant de faire autant de kilomètres alors que finalement la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, bon voilà, c'est pas non plus comme si c'était loin, et il faut arriver en France pour bah voilà tous se connaître. Et c'est, je remercie Raphaël,
oui,
avec le chapeau.
Oui, merci, non, Raphaël.
C'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Il œuvre beaucoup pour faire des traits d'union.
Exactement. Maruru, comme on dit chez nous.
Mais je pense que en fait, le danger de vivre en communauté, c'est bien parce que la préservation des cultures, des coutumes, etc. C'est bien de vivre en communauté, mais attention quand même au cloisonnement. Que les gens ne restent pas cloisonnés sur eux-mêmes, sur leur culture. C'est pour ça que le fait d'aller vers l'autre, c'est toujours déjà une ouverture vers celui qui est juste à côté. Et puis une ouverture sur le reste du monde, parce que l'Océanie même, qui est un continent, est inscrit dans le monde.
Et à l'instant, on entendait Sly notamment parler du fait qu'il avait quitté la Calédonie pour se confronter notamment à une forme de, on va dire, de concurrence en étant ici à Paris. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez, vous qui êtes dans la musique, alors Théa, peut-être qui est sur Paris?
En fait, le réel problème que nous avons, nous, personnes du Pacifique, c'est ça, c'est d'avoir une vraie visibilité aux yeux du monde. On a tellement de potentiel, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit même à Tahiti. Des gens qui font aujourd'hui de la musique parce qu'ils aiment ça, c'est dans leur sang, ça coule, c'est inné chez eux. On a du mal à avoir ces espèces de tremplins, en fait, qui peut exister et de faire le lien entre ici et la France, alors que nous sommes dans les locaux quand même de Outre-mer Première. Mais bon, à force, je pense que voilà, de se faire connaître et tout, j'espère en tous les cas qu'on va monter. Mais c'est ce qui se tend à se faire.
Pour rebondir à cette réflexion, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui font cette remarque que le Pacifique, on n'est pas beaucoup visible. C'est tout simplement une question mathématique, parce que c'est la question du nombre.
Mais oui,
c'est-à-dire qu'au niveau Pacifique, par rapport, par exemple, on se compare aux Antilles, mais ce n'est pas du tout comparable.
Non, je suis d'accord.
Parce que déjà, on est beaucoup moins. Et en fait, les populations, ben, nous, on est une minorité qui est carrément invisible en France. Je pense que c'est la raison première pour laquelle on a du mal à avoir accès à certaines choses. Mais je pense que...
Le CEPO va changer tout ça.
Non, mais je pense qu'en fait, je pense qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui essaient de mettre les moyens, qui donnent des faveurs au Pacifique pour pouvoir... c'est-à-dire, c'est à nous de saisir quelquefois des
opportunités,
des tremplins. Mais voilà, il faut y aller.
Alors, une question un peu, entre guillemets, avocat du diable. Est-ce qu'en étant ici, on ne risque pas de perdre un peu les racines ou ce qui fait aussi l'originalité de notre culture si elle est à 20 000 km,
non,
par exemple?
Non, franchement, non. Ça peut, au contraire, ça peut être qu'une force. Tu vois, c'est marrant parce que voilà, il y a tellement de jeunes qui viennent ici pour faire leurs études, tu vois, et ils savent pas la chance qu'ils ont quand ils sont là-bas d'avoir tout ce qu'ils ont à proximité d'eux. La mer, tout ça. Ils attendent d'arriver ici. Pour y en a qui apprennent le tahitien ici. Ils apprennent à jouer du ukulélé ici, de la guitare. Vraiment, ils se replongent en fait dans leur culture alors qu'ils étaient là-bas. Tu vois, donc non, quelque part c'est justement l'éloignement qui fait qu'on se rapproche encore plus, tu vois, de ses racines, de ce que nous sommes. Et c'est une force.
Dans la tête des gens aussi, ils ont toujours cette image du Pacifique,
cliché,
la plage, cocotier, machin. Tout. Tout de suite, quand on parle d'outre-mer, de Pacifique, c'est tout de suite on est mis un peu dans une bulle à côté.
Dans le cliché. On doit défendre un cliché.
Quand on parle des réalités, en fait, on n'existe pas dans les réalités. Les réalités, c'est-à-dire que les réalités, c'est quoi? Les artistes sont aussi sur le terrain.
Et ça étonne toujours quand les gens du Pacifique font des conférences, font des peintures, font de la poésie, ça étonne parce qu'ils n'ont pas l'habitude justement de ça.
C'est exactement ça.
Et donc voilà, il faut justement mettre en avant autre chose que les clichés du Pacifique, que les clichés culturels.
Oui, que ça sorte.
En fait, ces images clichés qui ont été ramenées par les navigateurs, on nourrit beaucoup les imaginaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a
ça continue aujourd'hui.
Ouais, ça continue aujourd'hui. Surtout, et puis même, le danger, en fait, c'est que certaines personnes aussi, enfin, de chez nous, hein, qui pensent que, qui sont dans la démarche d'affirmer une culture, mais en fait, ils sont aussi dans ce sens-là.
Folklorique.
De cultiver ces clichés. Donc, c'est pas évident.
Il y a quelques années, on avait essayé de vrai, avec Canac Spirit, on avait essayé de faire ça. Ça existait déjà avant.
Donc, c'était à Bordeaux?
C'était à Bordeaux, mais il y avait déjà d'autres structures qui ont œuvré artistiquement. Mais le problème, c'est que c'était enfermant. Pour moi, c'était ouvert à tous. Mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas forcément à atteindre nos objectifs. On n'y arrivait pas.
Par rapport au public.
Ben oui, parce qu'il y a quelque chose il y a une réalité aussi à laquelle on doit faire face. Donc quelque part, on œuvrait, mais quelque part, on donnait beaucoup de nous-mêmes. Mais finalement, les retours étaient peu évidents. Mais ça partait effectivement d'un constat. Quand on arrivait en France, je me disais, mince, on est bien en France, enfin en Nouvelle-Calédonie, c'est encore français. Et je ne comprenais pas en fait que notre culture et tout, elle était ignorée, quoi.
J'ai la chance d'avoir avec moi des vrais artistes en chair et en os. Je propose un petit live si Théa, t'es d'accord pour aller retrouver ton ukulélé.
Yes.
Décalage horaire. Ouh, rien ne fuitait. Tamari ino Tahiti inuae. Tamari ino Tahiti inuae. Ati a ini. Mai tihi tira a o tira a t
tia ini a mai ti ti ra a u ti ra haire mu a haire mu a awe haire mu a haire mu a awe Tamari ino Tahiti imuae Ati a ini a Mai tihiti ra a utira Ati a ini a Mai tihiti ra a utira Hairi mua Tahiti Polinesi Oleti de Kalajure Maruru Polinesi
TR987 Pop.
Merci beaucoup. Merci pour la dédicace. Voilà, on a le générique pour l'année prochaine. Là, ça y est. tu peux nous présenter un petit peu le morceau que tu viens de jouer ?
Eh bien, en fait, c'est très simple. Tamari no Tahiti, c'est enfant de Tahiti. Et Harimua, avancer. C'est exactement ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Aujourd'hui, on est tous dans une espèce de dynamique et une espèce de direction qui fait qu'on est tous des enfants de nos îles lointaines, quelles qu'elles soient. Et qu'il faut qu'on avance. Et moi, avancer justement avec des gens qui sont autour de cette table, au contraire, encore pire, encore mieux. Parce que tout à l'heure, on parlait du Siapo, mon Raphaël, qui est quelqu'un de très modeste, hein, disons-le, avec beaucoup d'humilité,
ça,
a fait quelque chose que peu de personnes ont fait. C'est-à-dire, il a présenté par exemple une conférence sur le Ori Tahiti. Le Ori Tahiti, c'est la danse polynésienne. La danse polynésienne, telle qu'on la connaît, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rentrer dans ce cliché de culture, donc folklore. Lui, il a amené autre chose, c'est-à-dire le pourquoi, l'histoire, comment ça s'est passé. Et donc, il avait une intervenante de renom, donc Punahe Prokop, voilà, Punahe Here Prokop, qui a fait donc cette intervention. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, parce que c'est vraiment l'ouverture en disant, peu importe, Wallisien, Kanak, Tahitien, on fait une conférence sur du Ori Tahiti, tu vois. Et voilà, là, on voit cette, comme je disais, tu vois, cette espèce de synergie qui se crée, ce lien pour... aller de l'avant, quoi. Mmh.
Raphaël, justement, quand on écoute Théa, ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander, toi, avant que tu quittes le Caillou, que tu quittes la Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'était des choses comme ça qui te... Enfin, t'avais déjà ces
pas
envies-là ?
Non, pas du tout. En fait, j'étais loin de penser que j'allais me retrouver dans cette histoire. En fait, j'étais parti de Nouméa parce qu'en fait, je suis employé dans une compagnie aérienne nationale.
Et on enterre le nom, mais elle se finit par France.
Oui, voilà. Et en fait, je suis arrivé à Paris, mais j'étais déjà, je faisais de la peinture à Nouméa. Il y avait une équipe d'artistes avec qui on travaillait, c'était le Siapo. Je suis arrivé à Paris. Et finalement, je me destinais à faire mon métier jusqu'à la retraite. Et puis finalement, j'ai continué à faire des expositions un petit peu avec les salons brassage de la mairie de Paris. Et puis petit à petit, ça s'est monté. Puis ça a pris. Ce qui fait qu'on a été obligé, en fait, finalement, de structurer le SIAPO en tant que statut juridique, association de loi 1901.
Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça y est, j'ai des fourmis dans les jambes. Donc, je vous propose de s'aérer un petit peu et d'aller faire un tour pas très loin du centre de la France, à Poitiers, pour y retrouver un certain Ismaïl Skan.
Ah.
Celui qui est considéré comme l'un des premiers Rasta blancs, a longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie et a fait des allers-retours fréquents. Raphaël, si tu veux savoir qui c'est Ismaïl, tends l'oreille.
Le prochain.
Laurentia, elle le sait. Retour sur l'itinéraire d'un habitant du vaste monde.
Salut Sylvain, bonjour à toi, merci d'être venu pour cette interview. Donc moi je suis Ismaïl Skan, Et je suis musicien, en fin de compte, à la base. Et voilà, j'ai des liens très précis avec la Kanaky depuis la fin des années 80. Ma rencontre avec la Calédonie s'est faite dans le Pacifique, en Polynésie, puisque adolescent rebelle et fatigué de la vie urbaine et de la France, en fait, n'ayant pas peur de le dire, j'ai décidé de tout plaquer et de partir sac à dos en Polynésie. Puis c'est comme ça que j'ai atterri à Tahiti, où je suis resté presque toute l'année 84. Étant dans la sphère pacifique, j'ai eu des infos qu'on n'avait pas dans la sphère atlantique sur tous les événements, puisqu'on est en pleine période des lois Machoro, l'assassinat des lois Machoro. Donc j'ai eu plein d'informations et un autre regard sur l'information. Comme j'étais très militant, très rebelle, très révolté, j'étais pro-reggae, pro-jamaïcain, tout ça. J'ai beaucoup côtoyé les Black Panthers aussi dans le 13e arrondissement à Paris à l'époque. Et du coup, il s'est rentré dans le cadre de mes affects. À la fin de cette année en Polynésie, j'ai décidé de revenir en France pour deux raisons principales. C'est d'abord rassembler ma culture, c'est-à-dire étant à moitié oriental, trouver le maître qui allait m'enseigner cette partie qui me manquait de ma culture, et trouver les frères Kanak et travailler avec eux. C'est comme ça que je suis revenu en France en 85 pour ça. J'ai toujours aimé la musique, en fait. J'étais très dans l'auditif et j'ai toujours été très touché par la voix. Donc c'est important aussi après, parce que j'ai beaucoup aimé chanter les taperas. J'apprécie énormément la culture vocale de Calédonie. Après, à l'adolescence, je voulais être écrivain aussi, mais à l'adolescence, c'est très, très difficile. Et du coup, c'est devenu une sorte de... Bon, bah, il n'y a que la musique, quoi. Puis c'est la seule chose qui m'intéressait sur cette planète, en fait. La fraternité avec les gens qui souffrent et la musique. Je suis venu tout naturellement en guitare pour le reggae et en oud pour musique orientale. Et après, le saz est venu après, vers l'âge de 15-16 ans. En fait, ça correspondait exactement à ce que je recherchais.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est comme instrument? Parce qu'on ne connaît pas forcément, enfin moi en tout cas.
Le oud, c'est un instrument à cordes, donc c'est que des cordes grattées, hein, comme la guitare. D'ailleurs, le oud, ça serait l'ancêtre de la guitare, en théorie. Et donc, c'est des cordes de nylon, donc ça aura un son quelque part plus feutré que la guitare, mais ça se rapproche de la guitare classique, en fait, en termes de son. Après, par contre, le saz, c'est beaucoup plus asiatique d'origine, puisque c'est vraiment l'Asie centrale, la Turquie, son bassin de naissance. Et là, c'est un instrument, une caisse en demi-poire avec un très long manche. Et puis, ça va de 6 à 12 cordes parce qu'il y a 5 tailles de saz, du saz contrebasse au petit saz qu'on peut apparenter au ukulélé. Là, par contre, c'est des cordes métalliques. Donc, c'est un son très différent, beaucoup plus cristallin, qui rappelle un peu de loin le son du clavecin. En fait, pour résumer, j'ai grandi avec le rhythm and blues et la musique classique arabe. Et en grandissant, j'ai fait du reggae et de la musique turque. En plus, j'ai trouvé ma voix dans le reggae, parce qu'il faut voir qu'on était dans une époque post-68arde. Donc, je ne me reconnaissais pas dans les valeurs hippies, où c'était un peu sex, drugs and rock and roll. Il n'y avait pas de morale et tout. Moi, je cherchais quand même des valeurs. Et je me suis vraiment reconnu à fond dans ce côté militant, anti-système, ce côté, voilà, une religion, une morale, une éthique, des rastas, quoi. Donc à partir du moment, en plus, les communautés comme ça m'incluent, du coup, il manquait plus que ça pour que je sois à fond. C'est en 93, la première fois, avec un groupe avant-scan, où on mélange, il y avait un titre avec un morceau en faga ouvert, avec donc le garçon Faoutolo, dont j'avais été le parrain pendant les événements de 88. En 93-94, voilà, il y a un premier album avec un morceau en faga ouvea, un morceau avec du saz de Turquie, tout ça en reggae bien sûr. Et ça commence là, c'est là que je commence à me dire, ah mais oui, pourquoi pas faire les deux ensemble.
Ismaël, on a commencé un petit peu à en parler. Quand tu as rencontré la culture Kanak, la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui a fait que dès le début tu as été attiré, tu as été intéressé?
D'abord, j'explique ça comme ça, c'est comme je revenais du Pacifique, j'avais certains codes en fin de compte. Des codes qui me permettaient de comprendre comment la culture fonctionne. Donc du coup, la communication est vite passée. J'ai vite été inclus, quoi. J'ai quasiment tout de suite été inclus, fait partie de la famille. Et comme quelque part, c'est ça que je cherchais, une famille finalement. Il faut être honnête, oui, c'est psychologiquement, c'est un peu ça, c'était mon parcours. Et donc du coup, voilà, je me suis voué corps et âme à la famille qui m'accueillait. D'ailleurs, j'ai un morceau que aime beaucoup Yabé, de scan où je dis « ma mère patrie sera celle qui m'aura choisi ». Voilà, ça illustre bien en fait ce qui s'est passé. Parce que voilà, quand on vit dans une société qui est dans le rejet, l'exclusion, des choses très négatives et de la domestication qui veut absolument nous domestiquer, nous mettre dans des cases, et ben ça marchera peut-être pour un certain quantité de population, mais voilà, je pense que je fais partie de la quantité de population que ça ne marche pas. Donc il vaut mieux faire comme les peuples premiers et comme le peuple kanak, trouver des cases pour les gens et les phénomènes qui arrivent plutôt que d'essayer d'imposer aux gens de rentrer dans des cases. À l'époque, on était très militants, c'était un combat, donc très soudé, très famille, quoi, parce que c'était la guerre, en fin de compte. Je m'en rends compte aujourd'hui, hein, c'était une sorte de guerre. Et après, ça a changé tout doucement, puisque c'est 400 cadres, c'est les étudiants qui, eux, ont eu des aides que les anciens n'avaient absolument pas. Parce qu'à l'époque, les Antillais, ils avaient des foyers, ils avaient des bourses, ils avaient des billets d'avion payés retour au pays. Tout ça, les Kanaks n'avaient pas, quoi. C'était vraiment livré à soi-même. Hein. Il y en a plein qui se retrouvaient en squat pour faire leurs études et tout. Et après, là, on a assisté à un changement que moi, j'ai mis au moins 10 ans à comprendre. Et effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus destin commun. On ne veut plus trop parler de politique. On veut quelque chose de plus culturel. Le terrain serait plus dans le partage et le culturel. Il y a une sorte de rejet peut-être de la politique. En tout cas, il y a eu. Maintenant, j'ai l'impression que les jeunes, ils reviennent un peu à la politique. Mais j'ai l'impression que pendant une bonne décennie, il y a eu une sorte de rejet de la politique parce qu'il y en a marre. Ça a créé trop de conflits et trop de clivages, même entre familles et tout ça.
En quoi est-ce que toi, dans ton inspiration musicale, tu penses que tu as pris des éléments du kaneka?
Par exemple, un truc, c'est que moi, j'avais une façon de jouer la guitare pour faire le reggae, pour pas faire check-it, check-it. Quand j'étais en soliste, en solitaire, quoi, je faisais l'accompagnement, je jouais en accompagnement. Donc j'étais autodidacte à la guitare, hein, j'ai jamais pris de cours. Et quand j'ai découvert les sons de Lexis Betela et tout ça dans la fin des années 80, j'ai été époustouflé parce qu'en fait, en autodidacte, je faisais un peu le même style. C'était fascinant la relation, mais comme ça, par hasard. Donc ça, c'est un premier point. Puis deuxièmement, après, les sons, le rythme kanak, du pilou, du tchap, tout ça, déjà, ça se marie très bien avec le reggae. Puis c'est quelque chose de très famille, très clanique et tout. Donc ça faisait déjà partie de moi, en fin de compte. Ça s'est fait tout seul, j'ai même pas eu à réfléchir. Ça m'a dépassé, le truc, en fait.
Aujourd'hui, Ismaïl, tu vis pas très loin de Poitiers. C'est bien la vie ici?
Quand je suis arrivé en France en fin 2002, oui, je me suis installé à Poitiers parce que c'est à la fois très rural et ça, c'est urbain, mais c'est quand même très rural. Donc j'ai mon équilibre.
T'espères pouvoir retourner faire un tour en Calédonie? Ça fait un moment que tu n'y es pas retourné.
Ouais, ça fait 12 ans que j'y suis pas retourné, hélas, à mon grand désespoir, mais ça fait partie de mes projets. De toute façon, je vais avoir beaucoup de choses à y faire. Et donc oui, ça fait partie des projets dans les années à venir avant que je devienne un peu trop vieux.
Dernière question, Ismaïl, tu as parmi les fondements de ton identité une inspiration, il y a beaucoup d'influences culturelles. Comment est-ce que toi tu vois le processus actuel de construction d'une société calédonienne où justement il y a beaucoup d'influences culturelles différentes aussi qui tentent de se fédérer autour d'un projet commun?
Si je dois m'en référer à ma propre expérience, je sais que ça ne va pas être facile. Parce que moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à rassembler tout ça. Il y a un côté très schizophrénique dans le fait d'être tout ce métissage à gérer. En fait, moi, mon parallèle, je le ferai comme ça, c'est comme les enfants qui, dès leur petite enfance, 1 an, 2 ans, on leur apprend 3 langues. Genre, maman, elle parle telle langue, papa, il parle telle langue, et puis la grand-mère, elle parle une autre langue. Et du coup, ça fait des enfants qui vont apprendre à parler plus tard. Mais par contre, quand ils sauront parler, ah, voilà la richesse, ils sauront parler 3 langues. Et de cette richesse, ils auront beaucoup plus de facilité à apprendre une 4e, une 5e ou une 6e langue. Donc en fait, pour moi, le parallèle, je vois comme ça.
Merci beaucoup, Ismaïl. Je propose qu'on se quitte en musique avec un de tes morceaux bien connu au pays, en Calédonie, Heureux qui comme Ulysse, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est un morceau, en fin de compte, c'est mon beau-fils aîné, c'est pour ça que ça lui est dédicacé, qui un jour est venu me voir à la maison, donc on habitait en région parisienne. Et à Montreuil, et du coup il vient me voir à la maison, puis il dit ouais, j'en ai ras-le-bol des vieux qui pensent qu'à l'argent et tout ça, il en avait marre de Paris, quoi. Et du coup il me dit, tu veux pas faire un morceau sur les vieux qui pensent qu'à l'argent, les problèmes qu'on vit à Paris? Alors je lui ai dit ok, je vais te faire un morceau.
Des roses sans épines et des arbres sans racines, un soleil sans chaleur et des humains sans odeur. Yeah, 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 yeah. De la science sans conscience, on ne respecte plus les vieilles gens qui n'aiment que l'argent. Yeah, yeah.
chamans. Mais où sont passés les chamans, man, man. Un combat sans idéal construit des bestiaux, une société sans rire construit des martyrs. Et les gens craignent le pire pour une planète sans avenir. Si personne ne fait le pas de changer tout cela. Mais où sont passés les chamans? Mais où sont passés les chamans? Man, man.
Rocky comme Ilis, retour à Paris, non à Malakoff. Alors je tiens à préciser que pendant l'interview, vous avez entendu un extrait du morceau Ham Dol Soon, interprété par le Alev Trio dont fait partie Ismaïl. Alors bon, je voulais un peu avoir vos réactions, Raphaël.
D'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui habitait ici, en fait, qui est parti là-bas. Il y a beaucoup de ces gens qui, en fait, sont un peu en quête de quelque chose, d'une identité, qui partent sur d'autres continents.
Quête d'une famille aussi, comme il le dit.
Parce qu'en fait, peut-être que lui, il a des valeurs qui sont plus d'actualité en France ou des choses comme ça qu'il arrive à retrouver dans le Pacifique. Et donc, c'est tout à fait compréhensible chez ces gens-là, comme dans le sens inverse aussi. Donc... Moi, je pense que l'identité, c'est quelque chose au départ qui est individuel, parce qu'en fait, une identité, c'est quelque chose, un nom, un prénom, une origine.
Et c'est personnel.
Après, ça devient une famille, ça devient un clan, ça devient une communauté. Après, il y a une identité, par exemple, une identité nationale comme être citoyen français. Donc, en fait, il y a plusieurs définitions, Mais c'est vrai que si on parle de culture, essayer toujours de redéfinir ce que veut dire le mot culture et à quelle époque. Donc, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Culture aujourd'hui n'a plus forcément le même sens qu'il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, parce que les mœurs évoluent, les populations. Donc,
Parce qu'en fait, on est tout simplement dans une crise identitaire, très clairement. C'est ça le truc, en fait. Ouais. Nos cultures, on est totalement en adéquation avec la mondialisation donc de ce que c'est, parce que ça nous a touchés, tous, même jusque dans le Pacifique. Et de l'autre côté, on a... pour faire simple, on a cet état d'esprit d'accueil, toujours accueil, chaleureux. C'est des choses qui malheureusement aujourd'hui dans les rues de Papeete, on n'a plus. Aujourd'hui, avant il n'y avait pas de mendiants, il n'y avait pas de clochards. Mmh. Aujourd'hui, c'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, tout ce rapport avec avec l'argent, tout ça, ben voilà, ça nous a quand même vraiment bien affecté. Et on parle de nombrilisme ici en France, mais on parle aussi de pitoïste. Pito, c'est le oui. nombril en oui. polynésien. Oui. Et c'est exactement valable à Tahiti, quoi, tu vois.
Oui. Je voudrais parler de l'expérience étudiante. Toi, Théa, tu es l'ancien président de l'AEPF, Association des étudiants de Polynésie française à Paris. Comment tu résumes un peu les choses par rapport aux étudiants quand ils arrivent ici en métropole? Est-ce qu'il y a aussi ce décalage-là pour eux?
Bien sûr. Donc moi, en fait, puisque mon parcours est totalement différent d'un étudiant normal, c'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance réelle d'être né en Polynésie. Et à l'âge de 2 mois, en fait, j'ai atterri ici. Donc j'étais Fahamu, adopté. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été adopté par un Tahiti, donc un Tahitien. Et donc, en fait, je me considère comme une arme. Une arme, pourquoi? Parce que j'ai grandi ici et je sais ce que c'est. Voilà, moi, je n'ai pas grandi en pavillon ou un truc comme ça, tu vois. Ce n'est pas pour dire que dans les cités, c'est... Mais j'ai aussi ce rapport avec la France qui est dur. Et quand j'ai commencé donc à rentrer dans cette culture, et à un moment donné, même je le dis dans une de mes chansons, ma culture m'a sauvé. Parce que voilà, j'aurais pu soit finir derrière les barreaux, soit finir dans un cercueil, pour de vrai, tu vois. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc ma culture m'a sauvé. Je me suis mis à vraiment croire en mon pays, en mon fainéant, en tout ce qu'il faut pour vraiment aider les étudiants. À la base, c'est pour ça que je suis rentré en tant que président de l'AEPF. Et j'ai bien entendu vu qu'il y a forcément un décalage. Tu quittes la Polynésie où il fait des 26 degrés dans l'eau, déjà il y a la mer. Donc déjà tu arrives sur Paris, c'est pas la mer. Tu quittes un ciel bleu où il fait chaleur, tu arrives ici, il fait froid et les gens sont gris. C'est un triste constat d'état, mais c'est comme ça. Donc déjà, au-delà du choc thermique, t'as le choc moral.
Ouais, tu vois, c'est clair.
Maintenant, il y a aussi cet état d'esprit en tant qu'étudiant. On est censé quand même avoir cette espèce d'envie, c'est-à-dire à partir du moment où tu viens ici, c'est tu sais pourquoi, au-delà du cadre des études, c'est tu sais que tu vas quitter papa, maman, tu sais que tu vas quitter ta terre, tu sais que... Donc voilà, c'est pas le côté en fait assistanat qu'il faut retrouver, parce que si c'est pour faire exactement la même chose que quand tu étais à Tahiti, c'est pas la peine. À un moment donné, il faut quand même pousser, tu vois, l'oiseau pour qu'il apprenne à voler tout seul. Mais les AEPF sont là, et on voit bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous, pour essayer de faire en sorte que l'étudiant ne soit pas complètement perdu, on le fait rentrer, par exemple, dans des ateliers qu'on a créés, l'atelier danse, atelier Reo Maui. Donc voilà, c'était des ateliers qu'on avait déjà à l'époque, où justement, il y a ce rapport avec la culture, avec les racines. Et tu les voyais encore plus investis. Ah oui, non, c'est comme ça, j'ai jamais joué du ukulélé. Ah, on peut. Et c'était trop marrant, en fait, de les voir encore plus tahitiens quand, ils, sont, oui, quand ils ont quitté ici pour rentrer à Tahiti, tu vois. Mais oui, on voit bien le décalage. Mais après, je pense que c'est propre à tout le monde. Hein.
Toi, Charles, tu as fait partie notamment du BTS
MUC,
Management MUC.
Voilà, Management Signité Commerciale.
Qui prend en charge le salon de l'étudiant.
C'est ça.
À Nouméa. Ça a pu te donner peut-être quelques indications aussi sur les inquiétudes des étudiants avant qu'ils partent ici en métropole. Enfin, comment tu vois les choses, toi qui es venu ici en métropole, pas forcément pour les études, mais voilà.
C'est vrai que pendant le salon de l'étudiant, les étudiants calédoniens, généralement, quand on discutait avec eux, étaient un petit peu perdus, ils avaient un petit peu peur justement de partir à l'aventure, de partir un peu à l'inconnu. Et c'est vrai que la Maison de la Nouvelle-Calédonie rassurait généralement les étudiants en leur proposant des ateliers pour leur apprendre un peu la vie parisienne, la vie en France en tout cas. Après moi, de mon expérience à moi, comme on disait, c'est vrai qu'en arrivant en Europe, dans ces grosses villes, il y a tout cet individualisme. Du coup, c'est vrai qu'on est tout seul, on perd un petit peu, entre guillemets, notre culture, un petit peu. Et c'est vrai que le fait de s'investir dans des associations, notamment océaniennes, c'est vrai que ça nous permet de rester en contact avec des gens de chez nous, avec la culture de chez nous.
De retrouver des codes.
De retrouver, voilà, les codes. Et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est le milieu associatif, en fait, en France, qui permet de, je pense, de sauver un petit peu la culture et de sauver un peu le fait que les jeunes soient peut-être un peu perdus en France.
Et toi, ton expérience à Londres, tu l'as vécu comment pour ça? Tu étais sans doute un des seuls calédoniens là-bas à ce moment-là.
Je sais que je ne suis pas le seul, je sais qu'il y en a, quelques-uns, mais je ne me suis pas senti seul parce que dans le sens où j'étais en colocation, donc du coup, je n'étais pas tout seul. Bon, ça a été une très très belle expérience dans le sens où il y avait des choses à voir, c'était la... Je suis arrivé pour la période des Jeux Olympiques, donc il y avait énormément de choses à voir, énormément de choses à faire, à visiter. Mais après, je suis resté pratiquement un an et c'est vrai que l'envie de retourner chez soi, retourner à la maison, ça a été très très fort, de retrouver un peu ses racines, ça a été très très fort. Donc j'y suis retourné, je suis resté quelques mois pour me ressourcer avant de repartir. Parce que c'est vrai qu'il y a cette envie et ce besoin de reprendre un peu de soleil, un peu de la chaleur humaine aussi, ce qui n'existe pas ou en tout cas très très peu en Europe, quoi.
On parlait à l'instant des villes, morceau dédicace.
La ville, c'est mon terrain de jeu. Drop plein de rimes comme du sable. À domicile ou à l'extérieur, je tape jamais en tout long. Les trottoirs comme des millions d'âmes. Avec penchant pour l'improvisation, enflammant le macadam. J'ai aimé la ville où j'ai grandi, les autres où je traîne à l'occasion. Comme autant de meufs que l'on croise au carrefour de nos vies. Ma place, c'est pas New York City. Et ces rues comptent aussi un nombre de mystères infinis. Tout commence au coin de rue où les anciens blaguent. Et attendant l'action qui restera, l'anecdote de l'année tentera. Vit l'histoire comme le corps de ces pauvres gens à qui personne ne rend hommage. Par chance, on 43 de pointure, emprunte les mêmes impasses. Et les fiches dans l'écriture, mes expressions tenaces. En compétition avec des tas de stickers, Space Invaders. Faut que ma voix laisse une trace large, comparable au boulevard Haussmann. Passe le postcard, que mon blast prenne place. En ville, y'a ceux qui font du shopping, d'autres essaient de survivre. Moi, je descends marquer le temps par le talent de mon swing. Comme la Motown ou Jack la Moda. Retourne la tête du passant comme un potard. Du métro jusqu'au soir, du soir au petit matin. Je gratifie les souterrains, graffiti vocaux, plein de couleurs musicales. Avec la frustration cannibale d'un MC n'ayant aucun jour à se mettre sous la dent. Exploitant les rues dans l'attente d'une inspiration marquante, afin que les mots frappent ton cerveau. La ville, c'est mon terrain de jeu. Je drop plein de rimes comme plus ça. À domicile ou à l'extérieur, je tape jamais en tout long. Je les trottoirs comme des millions d'âmes. Avec penchant pour l'improvisation, enflammant le macadam. J'ai aimé la ville, j'ai grandi, les autres où je traîne à l'occasion. Comme autant de meufs que l'on croise au carrefour de nos vies. Ma place, c'est pas New York City. Retrouve-moi en train de squatter la place, observant la faune comme une caméra sous la direction de Scorsese. Plan serré sur ses go. Leur manie de croire que la classe s'achète en euros. Mais fuite, on sait que c'est faux. À côté de ça, une troupe de junkies jongle, crache du feu, mendient comme autant moyenâgeux. C'est chaud. 2012, mes pieds foulent le sol d'une jungle à estimer en milliards de dollars. Personne ne s'excuse quand il bouscule l'autre ou sa canarde du regard avant la balafre. La fracture d'arcade ressent la menace des palabres. Ça parle mal, bâtard, je vais. La nuit, les lumières de la ville appellent autant de ténèbres que l'inspiration de mots sur le bord de mes lèvres. J'étais son élève depuis le roi de la ville. Faudrait que Ferrara le filme avant que l'abîme me rappelle.
Voilà, c'était une petite dédicace. J'avoue que je fais un peu de pub pour un pote à moi, un K47, qui était à Montpellier pendant les études avec moi. Et son collectif, l'argent de la drogue, la DLD. C'est un travail pour moi qui est patient et sans concession que ce collectif originaire de Perpignan perpétue depuis quelques années. Et si ça vous a plu, vous pouvez trouver facilement et en téléchargement libre leurs albums sur le site Bandcamp en tapant ADLD dans votre moteur de recherche. Bon,
argent de la drogue.
Là, ouais, voilà.
Ah, ça.
C'est ça,
ouais,
ADLD.
Argent de la drogue.
Exactement. ADLD. La ville, Laurentia, Bordeaux. C'est comment
la ville Bordeaux? Ah, elle a beaucoup changé, Bordeaux. Aujourd'hui, c'est devenu une très belle ville. Monsieur Juppé a bien fait son travail. La ville est propre, etc., etc. Bon, par contre, effectivement, je rejoins vraiment... c'est très difficile quand tu arrives du pays de faire avec ces absences de sourire, ces absences de bonjour, ces absences de... C'est pas évident. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à se retrouver entre nous. Mais je m'y fais toujours pas, moi. À 14 ans Bordeaux, j'y arrive toujours pas. Donc c'est vrai, moi aussi, j'ai besoin de retrouver des gens qui sont heureux de vivre et qui sourient. Et voilà.
Donc à terme, peut-être l'envie de bouger.
Ah mais moi, j'ai toujours l'envie d'aller retrouver le soleil.
La Calédonie.
Eh oui, le soleil en tout cas, des gens heureux. Et voilà, donc, c'est vraiment le plus dur, je dirais. Ouais, ouais. Le plus difficile, c'est effectivement le moral, quoi. Donc ça fait partie des choses effectivement à préparer. Parce que ça fait partie des causes d'échec, je pense. Des causes d'abandon et d'échec. Voilà.
Merci Laurentia, t'es venue avec ta guitare.
Oui, oui. Ouais. Une petite chanson.
Voilà, tu peux t'installer.
D'accord. Avec
Théa, vous faites Théa. Du coup, directement sous tout, ça marche.
Alors donc, c'est les roses blanches, donc une composition. Sont écloses de tant de sentiments, mon cœur explose. Je ferai de mon mieux pour leur ressembler, mon amour. La beauté de l'univers m'émerveille, tant de pureté me laisse rêveuse. En moi est en éveil, berce mon cœur, rend mon âme heureuse. Mais ne pars pas sans moi, s'il te plaît, pas sans moi. Je crains le mauvais temps qui paraîtrait devant nous, détruisant tout. Son passage, non, ne pars pas sans moi, s'il te plaît, pas sans moi. Je crains le mauvais temps qui paraîtrait devant nous, détruisant tout sur son passage. Les roses blanches sont si belles. Mon amour, admire-les. Je voudrais être comme elles, t'enivrer de leur parfum sorceleur. Toute une vie auprès de toi, savamment construite comme la fée nature, sans que ce soit une torture, simplement un instant de vie et de joie. Mais ne pars pas sans moi, s'il te plaît, pas sans moi. Je crains le mauvais temps qui paraîtrait devant nous, détruisant tout. Non, ne pars pas sans moi, s'il te plaît, pas sans moi. Je crains le mauvais temps qui paraîtrait devant nous, détruisant tout sur son passage. Soit une torture, simplement un instant de vie et de joie. Euh, Alors, une spéciale dédicace à ma famille, à Lifou, à Tongwe, à partout là au pays. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous aime et voilà, plein de bonnes choses à vous.
Merci beaucoup, la Polynésie grâce à Théa et puis la Calédonie grâce à Laurentia pour ce beau morceau. Un mot pour conclure, Raphaël ?
Bah écoutez, je vous souhaite à tous les auditeurs de Décalage Horaire de très bonnes fêtes, une excellente année 2015 et puis plein de bonnes choses de création pour les artistes. Voilà.
Merci, toi Charles ?
Oui, de bonnes fêtes à tout le monde, présent sur le caillou et puis un petit coucou à la famille. Et voilà.
Théa ?
Un grand merci à toi Sylvain pour l'invitation et l'accueil vraiment que tu nous as fait cet après-midi. Bien entendu, spéciale dédicace à toute la Nouvelle-Calédonie, spéciale dédicace à toute la Polynésie. Et juste un petit message, en fait, il y a un appel au don de la part justement de l'Association des étudiants de la Polynésie française de Paris. Parce que voilà, ils ont quelques petits désarrois en ce moment, problème de dette, tout ça. Donc ils ont effectivement un gros problème pour tout ce qui est don. Donc vous avez le Facebook de l'APF, exactement. Exactement.
Oui, il y a toutes les infos.
Bon, le message est passé.
Mais merci Sylvain.
Merci beaucoup Sylvain.
À bientôt. Merci à vous. Je voudrais conclure ce dernier décollage horaire de l'année.
C'est le décollage.
En remerciant tous ceux qui ont accepté de parler sous la contrainte du micro jaune ces 10 derniers mois, les étudiants, les sportifs, les militaires, les travailleurs, les passants. J'aimerais aussi partager une pensée avec tous les malades venus ici en métropole pour des opérations lourdes comme des greffes par exemple. Je voulais inclure le témoignage de l'un d'entre eux pour cette dernière émission mais finalement ça n'a pas pu se faire à cause du timing. C'est bientôt Noël et les fêtes de fin d'année, donc on vient d'en parler. Du coup, un peu partout en France, les associations vont organiser le Noël des enfants, celui des malades. Merci donc à toutes les associations d'étudiants et de calédoniens en général présentes en métropole qui m'ont accueilli au cours de cette année. Vous faites un super boulot. J'espère que le projet de fédération sur les rails va bientôt permettre de renforcer cette dynamique. Merci enfin à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, en particulier à Florence et puis à Nouvelle-Calédonie Première qui m'ont fait confiance cette année. Ça n'a pas tous les jours été facile, mais au final, j'en garde de fantastiques souvenirs et le plaisir d'avoir rencontré un peu partout en métropole de très belles énergies qui donnent confiance pour l'avenir du pays. Merci aux techniciens, Daniel Arrache-Tingy, pour sa patience.
Merci Daniel.
Voilà, merci encore une fois à mes invités aujourd'hui. Bonne route.
Merci Sylvain.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
Merci beaucoup. Bonne fête.
C'était Décalage Horaire, présenté par Sylvain Derne. Une émission de NC Première en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris.